Place Info.
Bonsoir. L'offensive turque au Kurdistan et la condamnation de la France. Nous ouvrons le chapitre aux informés ce soir. Les questions également sur l'attaque terroriste à la veille de l'audition au Sénat. Le sida est-il en train de reculer? C'est dans les informés avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe. C'est le vendredi à 19h30 sur France Info, canal 27. Avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et avec Alexandre Ledrolec, journaliste politique à l'Obs. Bonsoir et bienvenue à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. La Turquie a donc lancé son offensive dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde des unités de protection du peuple qui a combattu le groupe terroriste Daesh avec le soutien des Occidentaux. Bonsoir à vous, Aurélien Colli.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de Radio France à Beyrouth. Aurélien, qu'est-ce que l'on sait ce soir de l'offensive turque?
Alors l'opération a démarré dans l'après-midi sur deux secteurs frontaliers, Ras Al Ain et Tal Abyad, survol de l'aviation turque et bombardement sur ces deux zones. Ce sont des secteurs d'où se sont retirés lundi des forces spéciales américaines qui tenaient des postes d'observation. Et depuis le début de ces bombardements turcs, des milliers d'habitants fuient désormais ces localités. L'opération pour l'instant se limite à des raids aériens. Sur Twitter, les forces démocratiques syriennes parlent aussi de bombardements plus à l'est, plus vers la frontière irakienne, mais il n'y a pas de confirmation des agences de presse officielles. Alors l'offensive, pour l'instant, est aérienne. Elle pourrait se poursuivre au sol avec notamment l'armée nationale syrienne. C'est ce qu'a dit un peu plus tôt le président Recep Tayyip Erdogan. L'armée nationale syrienne, en fait, c'est une coalition de factions modérées qui est issue de l'armée syrienne libre, celle qui avait combattu le régime Al-Assad au début de la guerre civile. C'est à peu près 18 000 combattants qui ont été armés, entraînés par Ankara depuis l'été 2018, qui ont été mobilisés ces derniers jours, qui sont venus essentiellement du dernier bastion rebelle syrien, c'est-à-dire la province voisine d'Idlib. Selon l'un de leurs commandants, l'opération turque va d'abord viser Ras Al Ain et Tal Abayad, où les bombardements ont commencé. Et puis à l'ouest, Kobané, souvenez-vous, c'est là où les Kurdes avaient résisté pendant 4 mois au siège de Daesh en 2014. Tout à l'heure, un porte-parole des forces kurdes a dénoncé des frappes sur des zones civiles en réclamant aux Américains et à leurs alliés l'instauration absolue et impérative d'une zone de non-survol pour protéger les populations.
Encore quelques précisions avec vous, Aurélien Colli. Le début de réponse de la communauté internationale, ça passe par l'ONU demain, hein.
Oui, c'est assez faible. Hein. Les Européens sont un peu bloqués. Ils redoutent que la Turquie ouvre ses frontières et envoie un flux de réfugiés vers l'Europe. Pour l'instant, on est sur une réunion du Conseil de sécurité à New York, à huis clos, convoquée en urgence essentiellement à la demande de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Le secrétaire général de l'OTAN, dont la Turquie est membre, a quand même appelé Ankara à un maximum de retenue. Côté américain, la vraie charge sans concession qui est venue, elle est venue de l'influent sénateur républicain Lindsey Graham, celui qui avait déjà critiqué l'annonce du retrait américain et puis le rétropédalage aussi de Trump ces derniers jours. Lui, il a promis carrément qu'il ferait tout son possible pour que le Congrès fasse payer très cher au président turc cette offensive. En coulisses, on nous dit aussi que le Pentagone ferait aussi pression pour que l'opération turque soit au moins limitée à quelques secteurs ou une bande de quelques kilomètres seulement au territoire syrien. Les Turcs, eux, veulent s'enfoncer sur 30 kilomètres, quasiment l'intégralité du Kurdistan syrien. Et puis la Russie aussi est intervenue. Elle déplore, elle, cette offensive turque en estimant que ça sape les efforts de sortie pacifique de la crise syrienne. Vous savez que récemment, sous l'égide de Moscou et de l'ONU, un comité constitutionnel qui rassemble des pros et des anti-Assad a enfin été formé.
Merci à vous pour toutes ces précisions, Aurélien Colli. Je rappelle que vous étiez en direct de Beyrouth. Nous ferons un détour tout à l'heure par Washington où nous rejoindrons Grégory Phillips. Je me tourne vers vous, Audrey Goutard. Grosso modo, notre allié de l'OTAN, la Turquie, attaque nos alliés contre Daesh, les Kurdes.
Oui, alors les Turcs le disent depuis des années maintenant qu'ils ne laisseraient pas une frontière des forces kurdes proches du PKK s'installer et et ne prendrait pas le risque de les avoir si proche de la frontière. En fait, c'est une histoire, il faut imaginer une carte pour comprendre la situation en deux mots. C'est assez simple, vous avez la Turquie en dessous, la Syrie, vous avez une bande qui s'étire de l'Euphrate à la frontière irakienne, à peu près 480 kilomètres. Et le long de cette frontière, qui est frontière avec la Turquie, vous avez effectivement les forces kurdes qui se sont installées, qui sont proches des pires ennemis de la Turquie.
Alors le PKK, c'est le parti des travailleurs du Kurdistan.
Donc un parti d'extrême gauche qui
Ankara
est reconnu...
considère comme terroriste, grosso modo.
Ankara et l'Europe.
Oui, et l'Europe, hein, oui.
Disons-le. Donc Ankara et l'Europe considèrent qu'il s'agit d'un groupe terroriste. Et effectivement, à partir de là... la Turquie a toujours dit qu'ils agiraient contre. Et c'est d'ailleurs, ils en sont à leur troisième offensive. Rappelez-vous, en janvier 2018, il y avait déjà eu l'offensive d'Afrine, qui était exactement dans cette zone-là, pour que la Turquie puisse récupérer une ouverture, en tout cas, vers la Syrie, sans être encombrée, selon leurs critères, par des forces kurdes.
Alors Hélène Pilichowski, ce que décrit si bien Audrey Goutard à l'instant, dépasse finalement la simple, on va dire, géopolitique régionale du Moyen-Orient, du Proche-Orient. C'est finalement plus que cela, c'est une zone de guerre où le groupe terroriste État islamique, au fond, aura sévi et avec des ramifications dans tous les pays d'Europe et éminemment en France.
Non, mais ce qui est terrible dans cette histoire, bon, c'est effectivement la volte-face de Donald Trump et l'abandon, effectivement, de ceux qui ont permis de lutter contre Daesh. Il faut savoir que quand même, les combattants kurdes, qui s'appellent les Peshmerga, je crois, j'avais vu à l'époque,
Non, les Peshmerga, c'est en Irak.
En Irak ?
Oui.
Et les Kurdes qui combattent ?
Ça, c'est les
YPG, ce sont les unités de protection du peuple.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est eux qui ont combattu contre Daesh ?
Oui, bien sûr.
Ah, ben d'accord, je me trompe dedans.
Mais effectivement, vous avez raison. Les forces kurdes sont nombreuses, les alliances se font et défont en fonction de
elles sont
de la
sur deux théâtres de guerre, sur la Syrie et y compris en Irak. Oui.
Absolument, et ça paraît absolument effrayant que on laisse Erdogan un petit peu faire ce qu'il veut finalement. On lui laisse sa liberté. C'est étonnant d'ailleurs le pouvoir qu'il détient dans cette région, Erdogan. Évidemment, il a des soutiens. Mais enfin, je trouve ça, moi personnellement, je trouve assez révoltant. Et surtout les Américains quand même qui effectivement le laisse maintenant aller bombarder dans un pays étranger, parce que quand même la Turquie se permet d'aller en Syrie.
Qui est un pays étranger, aller
effectivement et atteindre en particulier les populations locales.
Allez, on va finir ce tour de table avec Alexandre Le Drolec et Stéphane Vernier dans un instant, mais juste après, à 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
De nouvelles analyses seront faites à Préau, près de Rouen. Annonce de la préfecture de Seine-Maritime ce soir, des taux de dioxine plus importants que la moyenne y ont été relevés après l'incendie de l'usine Lubrizol. La maire de la commune, Anne-Marie Delafosse, fait part de son inquiétude pour l'avenir sur France Info. Il reste encore des milliers de données à exploiter sur la clé USB de Michael Harpon, retrouvée dans le bureau de l'assaillant de la préfecture de police de Paris. Mais les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'il n'a pas transféré les données personnelles collectées sur des fonctionnaires de police. Donald Trump ne cautionne pas l'offensive turque en Syrie. C'est une mauvaise idée, selon le président américain. Il a retiré ses troupes du nord syrien le week-end dernier. Cela a laissé les forces kurdes à la merci des Turcs. Au moins deux civils sont morts depuis le début des frappes. La communauté juive d'Allemagne est profondément choquée. Deux personnes sont mortes lors d'une fusillade près d'une synagogue à Halle. Il s'agit d'une attaque antisémite, selon le ministre de l'Intérieur allemand, probablement perpétrée par un sympathisant de l'extrême droite.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Vous avez entendu tout à l'heure Aurélien Colli, hein, qui le rappelait en direct de Beyrouth, l'OTAN qui appelle les Turcs à la retenue. Ce qu'en a dit tout à l'heure Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et qui est vice-président à l'Assemblée nationale d'un groupe d'études sur les Kurdes. Il était l'invité du 1850 France Info.
Elle appelle à la retenue pour massacrer des populations civiles kurdes. On appelle à la retenue, puisque l'OTAN, nous en faisons partie, pour laisser nos alliés, ceux qui ont vaincu Daesh sur le terrain. C'est-à-dire, soyons clairs, ceux qui en réalité ont porté les coups fatals,
ceux qui ont fait
les
le job.
Plus durs, ont ouais. fait le job, exactement, on appelle à la retenue. Mais enfin, cette histoire est hallucinante. Donc, je vous le dis, il faut que la France, là, qui a interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU, il ne faut pas seulement que le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la retenue, s'inquiète.
Il faut plus que ça.
Ah bah, bien sûr.
Mais quoi?
Ah bah, par exemple, il faut s'interposer. Pourquoi pas l'envoi de casques bleus? Enfin, en tout cas, on ne peut pas laisser faire la Turquie.
Alexandre Le Drolet, qu'on entend, hein, la colère d'Éric Coquerel, quelle ironie, l'OTAN qui appelle au fond les Turcs à la retenue, ils sont membres de l'Alliance Atlantique, comme les Américains, comme les Français.
Ouais. Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est les conséquences finalement de cette offensive lancée par Erdogan à l'égard des Kurdes, qui, vous l'avez dit, ces Kurdes du YPG ont combattu Daesh. Quelles seront les conséquences à moyen terme pour éventuellement... y aura-t-il de nouveau des terroristes qui
C'est la question qui est posée ce soir.
C'est la question qui est posée ce soir. Pour l'instant, on ne peut pas y répondre. Est-ce que cette offensive va simplement viser à les faire reculer, les Kurdes, ou est-ce qu'elle va s'installer durable? Est-ce que ça va être une offensive durable? Pour l'instant, beaucoup de questions.
Oui, alors justement, à ce sujet, Stéphane Vernet, la France a condamné très fermement hein, cette offensive. Elle a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux affaires européennes, a immédiatement publié ce communiqué. Quelque chose était de l'ordre de, on va dire, de la réaction immédiate. Mais qu'est-ce que l'on peut faire très concrètement aujourd'hui? Le député Éric Coquerel parlait d'une hypothèse d'envoi de forces d'interposition.
Mais en fait, la clé, c'est d'avoir des hommes au sol. Mais et en fait, pourquoi l'opération s'est déclenchée? Parce que les Américains, lundi, ont décidé de retirer leurs forces spéciales. À partir du moment où il n'y a plus de troupes occidentales, il n'y a plus de forces qui sont susceptibles, non pas de s'interposer, mais simplement par leur seule présence, empêcher les Turcs d'intervenir. Plus personne n'est sur le terrain dans cette zone, les Turcs ont les mains libres. Ils ont annoncé depuis longtemps qu'ils allaient intervenir. Pourquoi? Parce que le Kurdistan, c'est un État qui n'existe pas et qui, en fait, existe par sa population, son histoire et sa culture,
et
qui est à cheval entre trois États. Le problème du Kurdistan en Turquie, c'est que c'est énorme. C'est une grosse partie de l'Anatolie et la Turquie n'acceptera jamais que le Kurdistan puisse prendre son indépendance. Or, vous avez de l'autre côté de la frontière immédiate des Kurdes, en fait, qui sont en position de force parce qu'ils ont résisté à Daesh, parce qu'ils ont été nos alliés, parce qu'ils sont constitués en force militaire et qu'il y a des passerelles entre les deux. Donc, vous avez la Turquie qui dit « Moi, c'est un problème de sécurité nationale parce que je suis en butte à des forces terroristes sur mon territoire, le PKK ». Et donc, j'interviens pour créer une zone pacifiée, pour combattre le terrorisme, Daesh, etc. C'est du pipeau. Mais ils ont toute latitude pour développer cette rhétorique. Ce qu'ils veulent, on l'a dit, c'est créer une espèce de zone tampon de 30 km, une espèce de no man's land, dans lequel ils pourraient s'assurer qu'il n'y ait plus de passage ou de collaboration d'un côté et de l'autre de la frontière entre des Kurdes qui pourraient légitimement prétendre à créer un État indépendant.
Audrey Guttard,
c'est ça qui se joue.
Oui, c'est ce qui se joue effectivement. Audrey Guttard, Emmanuel Macron en recevant, c'était lundi hein, à Paris, une haute responsable kurde, c'est une femme, hein, Ilham Hamed, s'était dit très préoccupée par ce risque d'opération turque. Est-ce que nous sommes, quand je dis nous, c'est la communauté internationale, nous ne sommes pas impuissants face à ce type de situation?
Non, nous ne sommes pas, à mon sens, nous ne sommes pas impuissants, puisque, en fait, chaque fois que les Turcs ont bombardé cette zone, la dernière fois, je vous le disais, c'était en janvier 2018 à Afrin, chaque fois, c'était parce que la communauté n'avait pas fait preuve de mots suffisamment forts et avait pris des décisions qui déstabilisaient la région. Par exemple, la dernière fois qu'il y a eu ces bombardements turcs, c'est parce que les Américains avaient annoncé qu'ils allaient former une force composée de Kurdes de 30 000 hommes. Immédiatement, bim, vous avez un bombardement turc. Et là, cette fois-ci, c'est parce que les Américains disent qu'ils vont retirer leurs troupes. Et paf, de nouveau un bombardement turc. Donc, en fait, dès que les puissances internationales sont claires dans leur discours et soulignent qu'ils veulent conserver cette force de frappe et cette puissance au sol, effectivement, ces troupes au sol, et ne pas prendre parti pour les uns et pour les autres, et les choses restent à peu près dans un statu quo. Dès qu'il y a une parole de trop ou une parole de travers, les Turcs en profitent, ou les Kurdes, effectivement, essayent d'être plus hégémoniques.
Hélène de Pilichowski, les Turcs sont nos alliés au sein de l'Alliance Atlantique.
On se souvient
du temps, même quand Jacques Chirac était en exercice, président de la République, Jacques Chirac souhaitait que la Turquie Turquie rejoigne les rangs de l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de situation est à même de nous éloigner un peu plus de la Turquie et de ce rapprochement qu'elle souhaite aujourd'hui et de toujours, de rapprochement avec l'UE, avec l'Union européenne?
Ben, à mon avis, ça ne devrait pas favoriser quand même les relations et les ambitions, les relations avec effectivement le reste de l'Europe, enfin ou l'Europe. Et surtout, la Turquie avait promis, je me souviens très bien, ça fait longtemps que la Turquie revient comme ça présenter sa candidature à mots plus ou moins voilé en disant qu'elle est candidate. Mais d'abord, il y avait des tas de... On a même abandonné, d'ailleurs, qui est provisoirement abandonné la procédure d'adhésion pour l'instant est hors course, hein. Et donc je ne crois pas que ce soit avec des opérations de ce type-là qui nous frappent quand même et qui montrent effectivement cette détermination à tuer une partie de la population pour ses ambitions locales. Et je pense que la Turquie là ne joue pas en sa faveur. C'est une crise qui dure depuis longtemps, mais donc qui va s'accentuer et devenir de plus en plus, à mon avis, grave, ouais, avec les événements auxquels on assiste aujourd'hui. C'est une partie très mal joué pour la Turquie, hein.
Stéphane Vernet.
Ouais. Ouais, enfin la Turquie. Alors Erdogan a des problèmes aussi internes. Il faut qu'il tienne son pays. Et puis il a un levier énorme par rapport à l'Union européenne. C'est que souvenez-vous la crise migratoire de 2015.
Absolument. Il a accueilli.
Aujourd'hui, ouais, dans le débat sur l'immigration qu'on tient en France, ouais, en ce moment même à l'Assemblée, enfin devant le Parlement, il y a l'idée que les flux migratoires à destination de l'Europe sont sans commune mesure aujourd'hui avec ce qu'on a connu en 2015-2016. Pourquoi ? Parce qu'il y a des accords qui ont été passés aussi avec la Turquie. Ils ont fermé la route.
Mais
ils ont fermé la route par la Grèce parce qu'il y a les réfugiés syriens aujourd'hui, ils sont en Turquie. Il y a des camps énormes et il y a un deal qui a été fait où on aide financièrement la Turquie pour qu'ils maintiennent. Voilà. Alors,
oui,
dans le discours, la propagande d'Erdogan qui consiste à dire on va créer une zone tampon, une zone de paix, etc. Il dit aussi, si on arrive à faire si on arrive à sécuriser ce périmètre, on pourra renvoyer ou réimplanter les Syriens qu'on
c'est
a chez nous.
C'est le discours officiel d'Erdogan.
En Syrie. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne le fait pas ou si on ne le laisse pas le faire, la menace à peine voilée, c'est de dire, si vous m'enquiquinez, moi, je vais rouvrir les frontières de l'autre côté et ils vont revenir. Ils vont revenir du côté européen.
Autre point essentiel, c'est que souvenez-vous, il y a 400 combattants liés à l'État islamique français dans les camps actuellement emprisonnés au niveau de la frontière par les Kurdes. Donc, c'est dans des camps kurdes. Et si il y a des bombardements là, les Kurdes auront autre chose à faire que de surveiller ces prisonniers de guerre et ces prisonniers de guerre risquent de retourner en France. De repartir dans la nature.
Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Armelle Balogog.
Le préfet de police de Paris adresse une note à ses directeurs de service après l'attaque à la préfecture. Didier Lallement leur demande de signaler immédiatement tout signe possible d'une radicalisation d'un agent, par exemple les changements physiques, vestimentaires et alimentaires. Et par ailleurs, l'organisateur d'un rassemblement de soutien à l'assaillant Michael Harpon vient d'être placé en garde à vue. Éric Coquerel est éberlué par l'offensive turque dans le nord-est syrien. Elle vise les forces kurdes. Il faut s'interposer, déclare le député France Insoumise dans le 18h50 de France Info. C'est aussi le vice-président du groupe d'études sur les Kurdes à l'Assemblée nationale. Cette offensive doit cesser, déclare ce soir Florence Parly, la ministre des Armées. Boris Johnson rencontrera son homologue irlandais demain pour parler du Brexit. Le Premier ministre britannique veut avoir une discussion détaillée. En revanche, les négociations atteignent un point critique à Bruxelles, toujours pas d'accord de divorce. Emmanuel Macron promet d'augmenter la contribution de la France à la lutte contre le sida. Le président est à Lyon ce soir. Il participe à l'ouverture de la conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Demain, le Fonds tentera de récolter 13 milliards d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Killy.
Allez, comme promis, petit détour par Washington. Bonsoir à vous, Grégory Phillips.
Bonsoir, Jean-François.
Allez, je le rappelle, vous êtes le correspondant à Washington, de France Info, de Radio France. Grégory, est-ce qu'au fond, la Turquie n'a pas agi parce qu'il y aura eu ce quasi-feu vert implicite, hein, de Donald Trump ?
Ah bah, il suffit de rappeler le calendrier. Dimanche soir, Donald Trump parle avec le président Erdogan au téléphone. Deux heures après, je crois, en fin de soirée à Washington, communiqué de la Maison Blanche pour dire les Turcs vont sans doute mener une opération militaire dans le nord de la Syrie. Le lendemain matin, salve de tweet de Trump qui dit en gros, on veut se désengager de ces guerres coûteuses et interminables. Donc clairement, il y a le feu vert donné par la Maison Blanche. Et puis vient maintenant un double discours, j'ai envie de dire, de la part de l'administration, parce que ce soir, dans un communiqué, qu'est-ce que dit Trump ? Il dit cette intervention militaire des Turcs, ce n'est pas une bonne idée, c'est même une mauvaise idée. Les États-Unis ne soutiennent pas cette attaque et on va suivre la situation de très près. Donc vous avez dimanche un Trump qui, en gros, dit à Erdogan, fais ce que tu veux, et qui aujourd'hui s'inquiète des éventuelles conséquences de sa décision de retirer ses forces spéciales de la zone frontalière, sans doute parce que aux États-Unis, cette décision a provoqué un émoi très vif, à la fois chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, avec le sentiment qu'on était en train d'abandonner les alliés kurdes.
Alors, Grégory, encore une question avec vous. Ces hésitations, ces allers-retours, si je puis dire, de Donald Trump, est-ce parce qu'il est actuellement fragilisé ?
Écoutez, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'impeachment, qui est une autre tempête qu'il doit affronter en ce moment. Ouais. Je pense que ça a plus à voir avec sa gouvernance, qu'on commence à connaître maintenant. Vous savez, quand il dit à Erdogan « je retire mes troupes et je te laisse les mains libres », en fait, Trump décide seul. Et on l'a vu le lundi, le Pentagone était plus qu'embarrassé. Le Pentagone ne savait pas quoi faire et disait « non, il s'agit pas d'un retrait total de la zone ». Donc il y a Trump qui, un dimanche soir, au téléphone avec un dirigeant étranger, prend une décision, et puis derrière vous avez l'administration et notamment le ministère de la Défense qui cavale derrière cette décision et puis qui précise un peu les choses dans la journée du et qui corrige le tir. Donc je pense qu'on est plus face à ça, face à un Trump qui décide seul quelque chose, et derrière ses experts militaires, le Pentagone, les membres de son cabinet qui rectifient le tir un petit peu et qui essaient de préciser les choses.
Merci à vous Grégory Phillips pour ces informations, ces explications extrêmement précieuses ce soir pour essayer de comprendre, tenter de comprendre. Merci Grégory, en direct de Washington, la volte-face de Donald Trump. Alexandre Le Drolec, une fois de plus, gestion erratique de la part du président américain et des allers-retours qui, au fond, ont des conséquences assez dramatiques.
Gestion erratique, effectivement, assez difficile à comprendre. Il faudra aussi surveiller sur cette scène internationale l'attitude que va avoir désormais Emmanuel Macron, qui se targue de vouloir s'emparer du leadership européen diplomatique, qui on l'a vraiment très nettement vu lors du dernier G7 à Biarritz. Il loue une diplomatie de l'audace, on dit qu'il aime les coup diplomatique. Maintenant, est-ce qu'il va se saisir de cette occasion, entre guillemets, pour monter sur cette scène internationale et s'imposer comme un leader, le leader qu'il veut être ? Ça reste à voir.
C'est vrai que vous avez raison, Alexandre, les regards sont tournés vers le président français. Audrey Goutard, il y a effectivement l'aspect, on va dire, du danger, du risque de chaos quasiment terroriste de cette affaire, parce que ça a été dit sur ce plateau. Au fond, de très nombreux combattants
450,
vous
français,
le disiez, français de Daesh, sont détenus dans les geôles kurdes. Ils nous rendent un sacré service à ce sujet. Il y a un risque, effectivement, d'exfiltration de ces terroristes.
C'est là où Donald Trump et Emmanuel Macron n'ont pas du tout la même stratégie. On peut dire que la communication de Donald Trump est erratique, etc. En fait, Donald Trump, il s'adresse à son électorat qui en a franchement rien à faire de savoir qu'à des milliers de kilomètres, les forces américaines peuvent combattre. En revanche, nous, Français, nous en avons drôlement à faire de savoir qu'effectivement, à quelques milliers de kilomètres de nous, il y a des Français convertis, combattants, qui ont combattu pour l'État islamique et qui seraient prêts à en redécoudre sur le sol français cette fois-ci. On en a effectivement beaucoup à faire de ces camps de migrants qui sont contenus pour l'instant et accueillis par la Turquie. Que se passera-t-il effectivement si les Turcs ne gèrent pas et ne filtrent plus la situation ? Donc, notre président de la République a effectivement d'autres enjeux. Oui. Et ces enjeux ne sont pas simples parce que d'un côté, il y a sa vision humanitaire et de l'autre côté, il y a une vision beaucoup plus terre à terre, vous le disiez, le risque d'attentat, le risque d'une immigration non contrôlée.
Stéphane Verdet, vous diriez vous aussi qu'il y a cette éventualité, ce risque qui se dessine si d'aventure la situation venait à s'aggraver sur le terrain?
Bien sûr, parce qu'on parle de 450 combattants français, mais il y en a beaucoup plus en réalité. Donc la problématique, c'est qu'est-ce qui va devenir de ces djihadistes? Alors est-ce qu'ils vont être liquidés? Est-ce qu'ils vont s'enfuir? Est-ce qu'ils vont être réintégrés, aller ailleurs? Là, pour l'instant, ce risque, il est réel et il y a une inconnue totale. Encore une fois, la clé de tout ça, c'était une présence physique, mais pas simplement pour je suis pas en train de parler d'envoyer des gens pour combattre contre les Turcs. Le simple fait d'avoir une présence occidentale dans la zone faisait qu'il y avait statu quo.
C'était une forme de garantie de sécurité.
Et encore une fois, le déclencheur, c'est Trump qui décide tout seul, sur un coup de fil, un dimanche soir. Ça a très bien été expliqué. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Grégory Philippe sur le sujet. Et pourquoi est-ce qu'il y a des atermoiements de la part de Trump et qu'il commence à dire non, mais c'est une mauvaise idée, etc. C'est parce que dans son camp, ça, c'est votre autre correspondant qui l'a cité. C'est très vrai. Quand vous avez un sénateur comme Lindsey Graham qui dit clairement que les alliés kurdes ont été honteusement abandonnés par l'administration Trump, alors que c'est un sénateur républicain soutien de Trump, il a des soucis. Allez, donc c'est pour ça qu'il change d'avis.
Nous marquons une pause à 20h28 sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des je vais y arriver. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour la suite des informés, voilà, nous y sommes.
Mes derniers chantiers sont finis, j'ai envoyé toutes les factures à mes clients. Maintenant, je dois tout ressaisir en compta avant lundi. Tu peux m'aider ?
Oui, j'ai déjà toutes les infos. Laisse, je gère avec ton expert comptable.
Tu stresses jamais, toi ?
Non, je fais du yoga en ligne.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
Cette brochette de dinde à l'ananas, une pure merveille. Dites-moi, chef, elle vient d'où, votre volaille ?
Oh, de France, monsieur. Ah. La volaille française au restaurant. Moi, je dis oui.
91% des Français souhaitent de la volaille française au restaurant. Sondage Opinionway pour l'APVF janvier 2018.
La volaille française, moi je dis oui.
France Info Météo, avec Gautier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison. À retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Allez, je bégaye. En plus, on a pris du retard 20h et 29 minutes. Le rappel des prévisions météo avec vous, Sébastien Léas de Météo France.
Demain matin, on retrouvera des résidus instables au nord de la Seine et sur le quart nord-est avec encore quelques averses. Ciel nuageux également entre la Loire-Atlantique, le nord de l'Aquitaine et l'Auvergne, mais les pluies seront faibles et localisées. La matinée sera plus lumineuse au sud de la Garonne, sur les Alpes du Nord et entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et le Berry avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le pourtour méditerranéen profitera du soleil, mais avec beaucoup de vent, notamment sur le nord de la Corse. L'après-midi, les éclaircies prendront un peu plus de place dans l'ensemble, hormis près de la Manche où le ciel va s'ennuager. On gardera tout de même un risque d'averse près des frontières nord et les nombreux nuages lâcheront encore quelques gouttes entre la Vendée, le Poitou-Charentes, la Bourgogne et l'Auvergne. Les températures maximales amorceront une hausse, atteignant 15 à 20 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 23 degrés dans le sud-ouest et 26 degrés autour de la Méditerranée.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Des rues désertes, des transports en commun suspendus. La ville de Halle, dans l'est de l'Allemagne, en état de siège après une tentative d'assaut contre une synagogue le jour de la fête juive de Yom Kippour. Il y a de morts et de blessés graves. Un des auteurs présumés a été arrêté. Le tireur a diffusé une vidéo sur une plateforme de streaming en direct sur Internet. Vidéo, il s'est filmé pendant cet assaut. Lui voulait organiser demain à Gonesse une manifestation de soutien à Michael Harpon, l'auteur de la tuerie de la préfecture de police de Paris jeudi dernier. L'activiste politique Adama Traoré a été placé en garde à vue ce soir. Le préfet du Val d'Oise avait interdit la manifestation pour prévenir le trouble à l'ordre public. La facture du chantier de Le Père de Flamanville qui devrait encore flamber d'1,5 milliard pour dépasser les 12 milliards d'euros. EDF compte en effet utiliser des robots pour réparer les soudures du futur réacteur nucléaire de troisième génération, comme le demande l'autorité de sûreté nucléaire. L'électricien vise maintenant un chargement du combustible au mieux fin 2022. Près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France l'an dernier. C'est une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. importante, annonce Agnès Buzyn sur France Info. Alors que s'ouvre à Lyon une conférence pour tenter de collecter 14 milliards de dollars pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'idée est de venir à bout de ces épidémies d'ici à 2030. Aurélien Bocan, le président de l'association Aide, est pessimiste.
Aujourd'hui, on est quand même assez inquiet puisque les échanges qu'on a pu avoir avec l'Élysée il y a quelques heures maintenant nous incitent à penser qu'on n'atteindra pas les 14 milliards et pour nous, ce serait une catastrophe. La France devrait, on espère, augmenter d'au moins 25% sa propre contribution, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans, hein, donc il faudrait qu'il serait temps que la France le fasse. Mais le succès de cette conférence, ce serait effectivement d'arriver sur 14 milliards et d'avoir une augmentation de la contribution française. Ça me semble nécessaire aujourd'hui pour que ce soit une réussite.
Aurélien Bocan, le président de l'association AIDS. De nouvelles analyses vont être réalisées dès demain dans le secteur de Préau après l'incendie de l'usine Lubrizol. Des taux de dioxine 4 fois supérieure à la normale ont été relevés dans l'air de cette commune du nord de Rouen, mais ils sont en dessous des seuils de toxicité. À l'étranger, la Turquie qui lance une offensive contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans le nord-est de la Syrie, qu'Ankara considère comme terroriste. Un millier de personnes fuient la zone. L'OTAN appelle à la retenue. La France saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la ministre des Armées sur Twitter, Florence Parly, cette offensive doit cesser car elle est propice à Daesh. Eux ont inventé la batterie au lithium. Le prix Nobel de chimie a été remis aujourd'hui à un Américain, un Britannique et un Japonais. Leur invention équipe aujourd'hui tous les smartphones et les voitures électriques. Il est 20h33 sur France Info. La deuxième partie des informés, c'est avec Jean-François Aquili et ses invités.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27, avec la journaliste politique Hélène Pilichowski, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et avec Alexandre Le Drolleg, journaliste politique à l'Obs. Alors je voudrais vous faire commenter cette décision, ce placement en garde à vue de Hamada Traoré qui voulait organiser une manifestation de soutien à Michaël Harpon à Gonesse demain, placé en garde à vue donc pour menaces et actes d'intimidation sur une personne exerçant une fonction publique ou d'utilité collective, menaces de crime contre les personnes et outrages. Audrey Goutard, une perquisition est en cours à son domicile. Comment expliquer ce soir ce placement de garde à vue ?
Nous n'avons pas pour l'instant, moi je n'ai pas en tout cas tous les éléments sous la main qui justifient son placement en garde à vue, dans le sens où l'intitulé que vous venez de dénoncer a l'air d'être en dehors de sa volonté de mener une manifestation. Quand je lis cet intitulé juridiquement, ouais, ça veut dire qu'il a menacé ou qu'il a essayé d'intimider un représentant de l'ordre public. Donc il va falloir effectivement qu'on en sache un petit peu plus. Sur le fond, il est évident que la préfecture ne souhaitait pas qu'il organise cette manifestation. Il avait expliqué qu'il la maintenait malgré tout. Et il y avait évidemment un risque de trouble à l'ordre public.
Hélène Pilichowski, sur le principe même de cette manifestation, que souhaitait organiser cette personnalité ?
Écoutez, oui, ça c'était une manifestation qui apparaissait choquante, évidemment, ce soutien à un assassin qui a tué 4 personnes. Donc, bien sûr, que le ministre de l'Intérieur décide de faire preuve d'autorité et donc d'interdire cette manif, bon, ça, au contraire, tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. Mais maintenant qu'on apprenne que l'initiateur est en garde à vue, il faudrait qu'on sache de quoi il est, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, parce que ça peut générer une polémique, parce que si on se dit, parce qu'on a eu peur de la manifestation, ou parce qu'on pense qu'elle est indigne, ce qui est vrai à mon sens. Bon, mais malgré tout, on est dans un pays républicain, démocrate, et le droit de manifester n'est pas encore interdit. Donc c'est ça que je trouve un peu gênant.
Ça représente un trouble à l'ordre public,
oui,
parce qu'il y a une apologie.
Oui, mais potentiel. C'est-à-dire, il y a pas. Je ne sais pas s'il y a des faits qui sont.
C'est ça. La manifestation avait été interdite par la préfecture.
Alexandre Le Drolleg, sur le principe.
Oui, vous connaissez son collectif citoyen. L'intitulé de son collectif citoyen, c'est pas La République en marche, c'est La Révolution en marche.
La Révolution en marche.
Oui.
Alexandre Drolet, sur le principe de cette manifestation, ça a suscité un émoi quand même. Hein.
Ça a suscité un émoi. Je crois qu'il a, Adama Traoré, il y a eu quelques tergiversations. Il a finalement dit que c'était aussi, ça visait d'abord à soutenir à rendre hommage aux policiers tués. Évidemment, ça choque. Je crois qu'effectivement, le préfet du Val d'Oise a publié un arrêté cet après-midi, il me semble, visant à interdire cette manifestation. Évidemment, je crois que tout le monde ne peut que trouver ça normal.
Stéphane Vernet.
Oui, bah c'est très choquant. Enfin, puis ça n'a pas été présenté comme un hommage aux policiers. On est en plein complotisme, etc. C'est totalement indigne. Et alors, ceci dit, il est très possible d'interdire la manifestation, ce qui a été décidé ce jour, sans le placer en garde à vue. Donc, effectivement, il doit y avoir autre chose.
Alors, je vous propose d'écouter à l'instant ce que Édouard Philippe a déclaré aujourd'hui en ouverture du débat sur l'immigration au Sénat. Le Premier ministre est revenu sur l'attaque terroriste de la préfecture de police de Paris et a appelé le pays tout entier à faire bloc.
Faire bloc, c'est aussi assumer que la nation dans son ensemble, l'État, mais au-delà de l'État, la nation, sont unanimement soudés par le désir de gagner ce combat, ce long combat, ce difficile combat qui a été engagé par notre pays contre l'islamisme radical, le terrorisme qui, au nom du dévoiement d'une religion, entend remettre en cause ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons.
Voilà donc discours extrait, bien sûr, d'Edouard Philippe, Hélène Pilichowski, qui fait écho à l'appel hier d'Emmanuel Macron à la société de la vigilance. Là aussi, cette expression a fait réagir.
Oui, mais ils appellent, donc le Premier ministre, à son tour, on peut dire, appelle à l'unité de la nation et surtout à une attitude, à une aide de chacun des Français pour mener le combat, effectivement, contre le terrorisme, contre la radicalisation d'un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai trouvé extrêmement bien hier la manière dont le président de la République a dit qu'il fallait que chacun participe à cette société de la vigilance. Ça en a choqué certains. Il a essayé de naviguer de manière un peu habile en disant, ben non, c'est pas l'ère de la dénonciation, on ne va pas inciter les gens à avoir cette attitude partout, c'est dangereux. Non, non, pas du tout. Au contraire, mais on pense qu'on n'arrivera pas à combattre le radicalisme, l'islamisme,
radical,
si chacun n'apporte pas sa participation, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les hôpitaux, partout.
Ce que dit le chef de l'État, Alexandre Drolet, là-dessus.
Je voudrais rebondir sur le terme société de la vigilance qu'il a employé hier et faire bloc contre l'hydre islamiste. Beaucoup ont dit qu'il change de ton, il change de discours. Or, ce sont des termes qu'il a employés mot à mot en mars 2018, au lendemain de la mort du commandant Beltrame. La société de la vigilance, deux mois plus tard, lors de la remise du rapport Borloo sur les banlieues, Emmanuel Macron a également parlé de la nécessaire société de vigilance. Voilà, ce sont des termes qu'il emploie. Il y a une constante là-dessus, en tout cas, qu'il faut noter.
Allez, on va rester sur cette thématique. On va marquer une pause à 20h40 avec le rappel de l'info. Et vous, Armel Balogog.
Des milliers de personnes fuient les bombardements dans le nord de la Syrie. Elles vivent dans les zones ciblées par les frappes turques. Deux civils sont morts selon les forces kurdes. L'OTAN appelle la Turquie à la retenue dans son offensive. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira demain en urgence. Nabil Karoui obtient satisfaction. Sa demande de libération est acceptée. Il pourra participer libre au deuxième tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Il sortira de détention ce soir. Le candidat qualifié est en prison pour blanchiment d'argent. Plusieurs commissariats franciliens victimes d'appels téléphoniques au bout du fil, des chants islamistes sont diffusés et ce, 6 jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris par un agent soupçonné de s'être radicalisé. Le préfet de police dépose plainte contre X pour apologie du terrorisme. Le nombre d'infractions routières a diminué l'an dernier, moins 18%, mais c'est une baisse mécanique selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière. Elle s'explique par les nombreuses dégradations de radars. En revanche, les conduites à risque, elles, sont en hausse.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Une société de la vigilance, expression malheureuse, a estimé ce matin l'islamologue Rachid Benzine. Il était l'invité de France Info avec Marc Fauvel.
À mon avis, c'est une expression malheureuse, dans la mesure où l'islam, déjà en tant que religion, il est attaqué à la fois de l'extérieur par des polémistes qui n'arrêtent pas de, je dirais, d'en faire l'alpha et l'oméga du mal.
Ça, c'est pour Éric Zemmour, notamment.
Voilà. Et en même temps, à l'intérieur, lorsque cet islam est dévoyé par une certaine forme de politique radicale ou des gens qui passent à l'axe, je le dis souvent, on aura beau détruire le territoire physique de Daesh, le plus difficile, ça va être de détruire le territoire des esprits. Et, étant donné la situation que nous avons aujourd'hui, ce discours aurait pu être dit par Marine Le Pen. Il est en train de montrer du doigt une partie de cette population qui est musulmane et on est en train de la jeter dans les bras de l'islamisme. Aujourd'hui, si tout musulman qui prie va devenir quelque part suspect, on est vraiment dans une société où on va développer le maccartisme.
Audrey Goutard, maccartisme, une sorte de chasse aux sorcières, ouais. Quelque part des musulmans de France, stigmatisation de l'islam, nous dit ce spécialiste, cet islamologue.
Il y a une chose qu'on peut rappeler quand même, c'est que les musulmans sont les premières victimes des extrémistes et de Daesh, etc.
Des
dans le monde,
oui.
Ce sont eux les premières victimes de ces actes-là. Ensuite, c'est vrai qu'il est compliqué d'être... Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? Le président devrait peut-être préciser sa pensée. Vigilant, est-ce que vigilant, c'est lorsque l'on voit que dans des classes de primaire, les enfants se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la musique parce que leurs parents fondamentalistes leur ont expliqué qu'effectivement la musique c'était pas bien. Est-ce que c'est le rôle des professeurs de l'éducation nationale de transmettre nos valeurs de la République? Est-ce que c'est ça être vigilant? Ou est-ce que c'est regarder si son voisin mange du porc, porte la barbe et voilà. Moi je trouve ça complexe effectivement.
Ouais.
Par ailleurs. Pardon, juste un point, au sein de la police, où effectivement la police a été durement frappée, le préfet de police, vous l'avez vu, a sorti un texte, là, une circulaire, en demandant à chaque policier d'être attentif finalement à son voisin et de regarder s'il n'y a pas de signes de radicalisation. Les signes de radicalisation étant, selon le préfet de police, ça donne un peu un curseur, étant... apporter la barbe, changer ses habitudes alimentaires et ne plus faire la bise aux femmes.
Oui, mais...
Voilà, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué.
Stéphane Ternet, cette société de la vigilance que ouais. semble dénoncer, enfin du moins l'expression, Rachid Benzine, l'islamologue, que nous avons invité ce matin, est-ce que, selon vous, c'est un modèle qu'on peut voir ailleurs, je pense notamment à Israël, où les citoyens sont assez proactifs en matière de sécurité?
Alors, j'avais pas pensé à la comparaison avec Israël. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, la thématique de la vigilance, c'est pas nouveau. François Hollande avait utilisé ce terme lors de son discours hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. Il avait parlé de vigilance, mais lui, c'était pour annoncer la création la reformation d'une garde nationale. Voilà. Ce qui est nouveau, en fait, dans le discours d'Emmanuel Macron, et que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée... pas tellement de la vigilance, mais le fait que les institutions seules n'arriveront pas à résoudre le problème, que les services de l'État seuls n'arriveront pas à résoudre le problème, que l'administration seule n'arrivera pas à résoudre le problème. Ça, c'est très très nouveau dans un discours, dans un pays comme la France, où dans lequel on a un État fort qui n'a jamais accepté de renoncer à ce qu'on appelle ses fonctions régaliennes. La police, l'armée, la justice, d'habitude, quand on a un attentat, le discours, c'est quand même de dire... on est là, on va réagir, soyons unis et forts, ce qu'il a fait, soyons unis hier, mais pas en disant, il faut que vous participiez aussi. Cette idée de société de la vigilance, il a quand même donné quelques précisions, c'est ça aussi la nouveauté par rapport à son discours de 2018. Il parle des écoles, il parle du au travail, enfin...
Repérer, dit-il.
Savoir repérer. Le problème, si vous voulez, c'est que je trouve que il a été très bon dans le discours d'hier, qu'il est très juste dans les mots et dans l'esprit. La difficulté qu'on a, c'est comment est-ce qu'on crée une société de la vigilance dans un pays ou dans une société qui est, comme la France, qui est aujourd'hui une société de la défiance, où il y a une espèce de... Il y a des fractures multiples. C'est un pays qui va pas très bien, dans lequel les gens ont beaucoup de mal à s'entendre. Et du coup, je comprends ce que peut dire Rachid Benzine qu'on a entendu à l'instant, parce que même si le propos du président de la République est clair, et même si c'est clair dans sa tête, je pense que là, ce serait lui faire un mauvais procès que de prétendre le contraire,
la façon dont la chose peut être interprétée et mise en œuvre,
vous dites, ça peut
déraper.
Ça ne peut
et
pas
oui,
s'organiser ben, dans peut très une bien. France aujourd'hui très, on va dire, fracturée.
C'est-à-dire que la base de son discours pour la société de la vigilance, c'est dire, c'est les valeurs républicaines. Moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les valeurs républicaines, elles soient claires et partagées et connues de tous dans ce pays. Il y a peut-être un travail à refaire sur qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble, en fonction de quelles valeurs, de quelles bases, qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas, au nom de quoi. Et aujourd'hui, force est de constater que ce travail-là, il n'existe plus. Et la boussole, elle est cassée. Et c'est peut-être là qu'on peut avoir un problème.
Hélène Pilichowski.
Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est clair dans sa tête, effectivement, et qu'il l'a expliqué, il s'est défendu tout de suite de parler de soupçons. Il a dit, il ne s'agit pas de soupçons, il s'agit...
Oui, c'est de la vigilance et non soupçons.
Éveil des consciences. Il l'a dit. Bon, ça c'est vrai, mais on ne peut pas en même temps être dans un pays comme la France, où dès qu'il se passe quelque chose, surtout quelque chose de dramatique, on se tourne vers l'État, tout le monde se tourne vers l'État, on demande dans la minute qui suit la démission du ministère de l'Intérieur. Bon, très bien. C'est ça la France aussi. On demande tout à l'État. Souvenez-vous de la secrétaire d'État, aux victimes de François Hollande, Juliette Méadel, qui disait secrétaire d'État aux victimes, après un drame comme celui-là, vous n'avez qu'un seul numéro de téléphone. Je l'entends encore dire ça. L'État. C'est incroyable. Donc c'est ça la France. Et ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, il est temps que chaque Français prenne conscience de sa responsabilité dans la lutte Mais ce qui est très difficile, c'est comment est-ce qu'on repère. Vous l'avez dit tout à fait justement. Comment est-ce qu'on repère?
Le plus compliqué, c'est d'établir la règle et les limites de.
Est-ce qu'on va aller dire à la maîtresse, j'ai vu celui-là, vous avez vu, il a fait ça, c'est ça qui est terrible.
Tout à l'heure, Rachid Benzine, ce matin, sur France Info, notre invité islamologue a cité, a évoqué Marine Le Pen. Écoutez ce que Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, a dit, lui, de ce principe évoqué par le chef de l'État. Il était l'invité de BFM TV.
Bien sûr qu'il faut être vigilant, mais la protection des Français, c'est pas l'opération locale, municipale, voisin vigilant. C'est pas possible. C'est à l'État d'assumer d'abord sa responsabilité. Or, le problème, et on l'a bien vu dans cette affaire, c'est qu'il y a non seulement des trous dans la raquette, mais enfin, il y a de quoi faire passer du monde à travers ces trous.
Alexandre Drolec, c'est assez étonnant puisque, au fond, notre invité ce matin disait discours digne de Marine Le Pen et on se rend compte que dans les rangs du RN, du Rassemblement National, on en vient peut-être à un modèle plus ancien et plus classique.
Oui, alors c'est une attaque assez attendue de la part du Rassemblement National qui effectivement dit là, l'État Macron est faible, l'État Macron ne peut pas protéger les Français. Enfin, cette attaque, me semble-t-il, était assez attendue. Vous disiez que les propos d'Emmanuel Macron étaient très clairs. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils les étaient. Bien entendu, finalement, puisque quand on interroge l'Élysée sur cette notion de société de vigilance, ils nous disent c'est une société de concorde, de responsabilité, d'attention portée aux autres. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce message-là qui a été entendu par les Français hier. Donc peut-être qu'effectivement Emmanuel Macron devrait aujourd'hui clarifier, en tout cas expliciter, affiner son concept de société de vigilance.
Ouais. Non, on est d'accord. Stéphane en fait. Dernier. Je pense que c'est ce que je disais, c'est que je pense que c'est clair dans sa tête qu'il a un peu développé, mais que en fait dans le contexte il manque les bases effectivement. Et du coup il peut y avoir des dérapages. On peut aussi verser dans un espèce de système de soupçons généralisés, de stigmatisation, et d'aboutir à l'inverse de ce qui est recherché. Parce que finalement, ce que les terroristes cherchent, c'est ça aussi, c'est de générer ce soupçon systématique et de fracturer encore plus la République.
Et je rappelle que demain matin, il y aura l'audition de Christophe Castaner. Ce sera à 9h devant la commission des lois du Sénat. Et nous parlerons évidemment et éminemment de toutes ces questions. Allez, 20h50 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
Angela Merkel participe à un rassemblement dans une synagogue à Berlin ce soir, hommage aux deux victimes d'une fusillade à Halle, près d'un lieu de culte juif. Un tireur a été interpellé, il a filmé son attaque et l'a diffusée sur Internet. Selon le ministre de l'Intérieur allemand, il s'agit d'un attentat antisémite, probablement perpétré par un sympathisant de l'extrême droite. L'offensive turque se fait aussi au sol, en Syrie. Des combats entre l'armée turque et les forces kurdes ont lieu tout le long de la frontière. La Turquie a aussi bombardé le nord syrien. Au moins 11 personnes sont mortes, dont 8 civils, selon un nouveau bilan d'une ONG. Une perquisition en cours chez Adama Traoré dans le Val d'Oise. L'organisateur d'un rassemblement en soutien à Michaël Harpon, l'assaillant de la préfecture de police de Paris, lui est placé en garde à vue. Des nouveaux prélèvements seront effectués dès demain à Préau, de près de Rouen, annonce de la préfecture de Seine-Maritime. La maire de la ville est inquiète pour l'avenir. Des taux de dioxine plus importants que la normale y ont été prélevés après l'incendie de l'usine Lubrizol.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'épidémie est-elle réellement en recul? Agnès Buzyn, c'est une première depuis 2010, a annoncé une diminution l'an dernier des contaminations au VIH. C'est le virus sur l'immunodéficience humaine, c'est le virus du sida. C'est-à-dire que l'épidémie recule. Écoutez ce qu'en a dit la ministre de la Santé, c'était sur France Info ce matin.
Le risque du VIH ne mobilise pas autant qu'il ne le faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, alors qu'il est toujours présent. Et je voudrais en profiter pour dire que les politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour mieux donner l'accès aux médicaments, à la prévention, fonctionnent. Nous avons un bon chiffre en termes de contamination par le VIH dans notre pays. Mmh. Les contaminations entre 2017 et 2018 ont baissé de 7%.
Que vous nous annoncez ce matin. Les contaminations ne baissaient plus ces dernières années en France, on était autour de 6400 par an.
C'est cela,
nous sommes à
6200, c'est la première fois depuis plusieurs années qu'il y a une diminution du nombre de personnes qui se contaminent, c'est encore beaucoup trop.
Voilà, Agnès Buzyn avec Marc Fauvel dans la matinale de France Info. Audrey Goutard, annonce faite ce matin alors que c'est ouvert à Lyon, cette conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, mais aussi contre la tuberculose, contre le paludisme, qui doit faire, on va dire, le point sur la levée de fonds. Il manque une certaine somme. Emmanuel Macron va prononcer un discours demain. Est-ce que, selon vous, l'épidémie de sida régresse au niveau mondial?
Moi, je pense que rien n'est gagné. On est vraiment encore dans un vrai combat parce que c'est le problème avec cette terrible maladie, c'est que ça n'est pas simplement une maladie comme, je dirais, le cancer. C'est une maladie aussi sociale, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'attrapent les gens parfois les plus fragiles quelque part, les plus jeunes, les toxicomanes, ceux qui, dans un moment d'égarement, effectivement, ne prennent pas de précautions. Donc il faut changer les habitudes. Il ne faut pas simplement combattre une maladie avec des scientifiques, il faut aussi changer les habitudes. Et ce qui est intéressant, justement, dans ces nouveaux chiffres, c'est que ça baisse aussi parce que il y a une des campagnes de prévention, parce que la prévention fonctionne plutôt bien, y compris la prévention médicamenteuse, vous savez, ces nouveaux traitements qui permettent de prendre en amont...
Le PrEP.
Exactement. Donc voilà, c'est un premier pas dans le combat, mais ça n'est pas gagné, évidemment.
Alexandre Drolec, alors il y a des chiffres qui sont donnés par Santé publique France concernant 2018. Parmi celles et ceux qui ont découvert leur séropositivité, plus de la moitié de la contamination s'est faite par rapport hétérosexuel, 56%, et oui. Les rapports sexuels entre hommes représentent 40%. Des contaminations, l'injection de drogue avec des seringues contaminées, seulement 2%. C'est vrai qu'il y a des nouveaux traitements, comme le rappelait Audrey Goutard, c'est vrai qu'il y a de la prévention, mais est-ce qu'on n'a pas la sensation aujourd'hui que quelque part, la lutte contre le sida, disons les choses, est un petit peu disparue, on va dire, du paysage de la prévention aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mêmes proportions, effectivement, qu'il y a une dizaine d'années. Il y a aussi, donc, ces chiffres-là, ils n'empêchent qu'on peut quand même s'en réjouir. Ça fait moins de 7%. Je crois qu'on est passé de 6500 à 6200 cette année. Reste qu'effectivement, il y a quand même, la conséquence de ça, c'est qu'il pourrait y avoir une sorte de relâchement de la vigilance. On parlait de vigilance, encore une fois, là-dessus. Et là-dessus, il y a quelques signaux inquiétants, quand même. Là, je lisais deux études qui étaient apparues l'année dernière, qui disaient qu'un jeune sur deux, par exemple, en France, entrait dans sa vie sexuelle, n'utilisait pas de préservatif en entrant dans sa vie sexuelle. L'autre chose, c'est qu'on constate aussi que les plus de 50 ans, une recrudescence du virus chez les plus de 50 ans, entre 2008, je crois, et 2016, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, il y a quand même quelques signaux qui font dire qu'effectivement, ce n'est pas gagné.
Oui, Hélène Pilichowski, vous confirmez, c'est ce que dit à l'instant Alexandre Drolec, oui.
Mais ce qui se passe et qui peut y avoir effectivement un relâchement, c'est que on ne meurt plus du sida, enfin plus comme c'était le cas, très peu, comme c'était le cas dans les années à partir de 75.
On va dire qu'on meurt moins, parce qu'il y a des traitements qui permettent de...
Ah non, il y a des traitements,
on est sous traitement lourd pendant
voilà,
des années.
Voilà, on est sous traitement lourd, très long, non mais ça ne veut pas dire qu'on vit très bien, etc. Et
il y a eu 700 000 morts en 2018.
Oui, c'est ça, je ne pense pas qu'on meurt moins parce qu'il y a moins de contamination.
C'était par million, mais en France par exemple, on vit longtemps avec des traitements qui sont extrêmement... Les antiviraux à dose importante, qui sont extrêmement pénibles à supporter, quoi qu'ils le sont, on améliore aussi les traitements. Ils étaient très, très, très difficiles, très troublants au départ. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il n'y aura jamais de sécurité et de... tant qu'on n'aura pas trouvé le fameux vaccin, surtout, effectivement, qui n'est toujours pas là, le vaccin qui permettra, effectivement, de faire un peu ce qu'on veut. Mais il faut éduquer les gens parce que c'est aussi l'honnêteté entre les partenaires qui fait qu'il y a des personnes qui ont des relations sexuelles, dont certains, en particulier chez les jeunes, ne prennent pas conscience du risque et transmettent parfois, comme ça, à d'autres personnels leur propre contamination. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est un problème de société, effectivement.
Stéphane Vernet, pour conclure, il sera question de chiffres demain, malgré tout, à Lyon, puisque, selon les associations, il manque 14 milliards de dollars au niveau monde pour abonder ce fonds nécessaire à combattre ces trois fléaux. C'est pas forcément facile dans un univers où, au fond, il y a beaucoup d'enjeux prioritaires, notamment les enjeux climatiques, entre autres.
Non, et puis une des problématiques, si vous voulez, c'est que pour vaincre une maladie quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait un marché derrière. C'est moche à dire, mais c'est aussi ça qui se passe. C'est-à-dire que la recherche, l'argent va aller en fait à des médicaments qui puissent ensuite être rentabilisés. Plus il y a un potentiel de rentabilisation, plus il y a d'argent. Donc s'il y a une baisse de la contamination ou si on estime en fait que la maladie est en recul, eh ben, elle risque d'attirer moins de capitaux.
Allez, Stéphane Verdet, la une de Ouest France demain.
On a un dossier spécial sur les retraités qui reprennent le travail.
La une de l'Obs avec vous, Alexandre Lec, demain aussi dans les
kiosques. Demain également, sur des héros du quotidien, des héros un peu anonymes qui essayent à leur échelle de rendre le monde un peu meilleur.
Et Audrey Goutard, qui allez-vous recevoir dans Ligne Directe?
Un grand spécialiste des migrants et de l'immigration, Pascal Brice.
Et merci à vous également, Hélène Pilichowski. Merci à tous les quatre. Je vous donne rendez-vous demain soir, je vais le dire sans s'abonner, pour une toute prochaine édition des Informés de France Info.